dois lancer. C'est là. Donc, j'apprête simplement quoi, ce qui doit être là. OK. Bon, on peut commencer. Hein. Salut, chers auditeurs de la Radio Présence. À la demande de notre évêque, Monseigneur Laurent Cambiade, nous initions une série d'émissions sur le thème « L'espérance ne déçoit pas ». C'est l'intitulé de la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à l'occasion de l'année électorale 2022. Cette déclaration rappelle les points d'attention et les convictions de l'Église catholique en France et, souhaitant un débat de qualité, propose un outil de discernement individuel et collectif. Sept titres nous sont proposés, à savoir choisir de vivre ensemble en paix, le respect inconditionnel de toute vie humaine, promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité, les religions, une chance pour notre société en quête de sens, pour une écologie authentiquement intégrale. La France n'est pas une île et transmettre, il s'agit de la transmission. Dans cette première émission, nous allons réfléchir sur les quatre premiers titres. Choisir de vivre ensemble en paix, le respect inconditionnel de toute vie humaine, promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité, et les religions, une chance pour notre société en quête de sens. Émission présentée et animée par le père Barthélemy Dinama Kondé, chapelain à Rocamadour et vicaire à la paroisse de Rocamadour.
Par Chantal Bonnemère.
Et Jacques Allary, donc je suis laïc de la paroisse de l'Albinque.
Nous avons aussi Bernard Miguerou qui est empêché, mais qui a envoyé quand même sa contribution. Voilà, une fois de plus, Chantal, Jacques, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre réponse toujours positive et renouvelée. Se présentant aux élections présidentielles et législatives, d'emblée, que vous vient en tête en lisant cet intitulé que nos pères évêques nous proposent, l'espérance ne déçoit pas.
Alors j'ai envie justement de donner une petite définition en fait de l'espérance à mon compte. Tout d'abord, je pense que nous sommes faits pour plus grand et plus beau que ce que nous connaissons et vivons ensemble ici-bas, puisque l'aboutissement de toute vie, à mon humble avis, est dans l'éternité promise avec Dieu, et Dieu ne saurait nous décevoir.
Oui, Jacques.
Oui, donc quand je lis ce titre, l'espérance ne déçoit pas, tout d'abord je pense à saint Paul, car c'est dans l'épître aux Romains qu'on trouve cette phrase, l'espérance ne déçoit pas. Alors saint Paul écrivait cette phrase dans un contexte évidemment d'une espérance en Dieu. Aujourd'hui, on est plutôt sur la discussion concernant une espérance dans le cadre des élections présidentielles que nous vivrons en avril 2022. Alors, moi j'aimerais définir l'espérance par son contraire, qui est la désespérance. La désespérance, c'est la résignation, le repliement sur soi, un peu dans le cynisme et souvent dans l'amertume. En politique publique, ça se traduit par « ils sont tous les mêmes, le tous pourri, ils ont tous le même programme, à quoi ça sert d'aller voter ?» Et ça conduit directement à l'abstention. Alors l'espérance à laquelle, me semble-t-il, nos évêques font appel, c'est celle qui consiste à penser que l'on peut, que l'on doit pouvoir, chacun à notre place, changer les choses. C'est donc ce qui va nous inciter à agir et, en premier lieu, à aller voter. Parce qu'on peut penser que par notre bulletin de vote, on doit pouvoir changer les choses. Il faut l'espérer, en tout cas. Alors, nos évêques ont-ils raison de s'exprimer à ce propos ? Oui, me semble-t-il, car les chrétiens que nous sommes se doivent d'être porteurs de cette espérance qui pousse à agir pour changer le monde. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de brandir notre foi comme un étendard. Nous sommes, nous aussi, dans l'Église, très imparfaits. Et le récent rapport de la SIAZ, malheureusement, nous le prouve douloureusement. Donc, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais d'essayer d'être des artisans du bien commun. On va reparler du bien commun, sans doute, au cours de cette émission. Des artisans de paix, de fraternité, de justice sociale et de respect. Il me semble que c'est à travers cela que nous devons être présents au monde qui nous entoure, sans s'y conformer, mais sans arrogance non plus. Si nous portons cette espérance-là, je crois que nous ne serons pas déçus, et on rejoint donc cette phrase « L'espérance ne nous décevra pas ».
Bernard estime que l'espérance repose sur une confiance. Il dit, je vois autour d'elle des lueurs d'avenir, l'amour d'un Père, d'un Dieu, Père pour chacun, la présence des frères proches et lointains, la capacité de se relever avec eux et poursuivre le chemin, la présence toujours renouvelée du beau et du bien, la promesse d'un horizon, tout cela peut transfigurer nos pauvres contingences, y compris électorales. Voilà. Alors, après cette question, après l'introduction, le tout premier thème abordé par nos pères évêques est « Choisir de vivre ensemble en paix ». Au numéro quatrième, ils écrivent « La vie en société passe par le choix de chacun de vivre en paix avec tous. Retrouver le sens du politique, comme nous y invitions en 2016, ce n'est pas d'abord avoir des idées sur la politique, mais avant tout cultiver les désirs de respecter profondément et activement ceux et celles au milieu de qui nous vivons. Comment nous sentons-nous personnellement responsables de la paix de notre société, Jacques ?
Alors, responsable personnellement de la paix de notre société, tout un programme. Pour moi, il me semble qu'être responsable de la paix sociale, c'est avoir constamment le souci de créer les conditions sociales pour que chaque individu, chaque personne puisse bénéficier de tous ses droits et puisse atteindre son plein épanouissement. Et ce, sans exclusion, sans discrimination, sans injustice, sans préjugés et sans a priori. En somme, c'est un peu être responsable personnellement de la paix, c'est un peu être tous responsables de tous. Alors on pense, nous chrétiens, à la parabole du Samaritain, où le Samaritain vient en aide à l'homme blessé. Être responsable personnellement de la paix sociale, c'est être toujours au chevet des personnes blessées. À chaque fois que nous sentons qu'il y a une exclusion, un rejet, une discrimination, une injustice, un préjugé, un abandon, une fragilité, nous devons, me semble-t-il, intervenir. C'est ça être responsable. Lutter, rétablir la paix, la fraternité, la justice. Être responsable de la paix sociale, c'est se sentir responsable de cette nécessité que chacun soit respecté en ce qu'il est, dans sa dignité, son intégrité, sa fragilité, c'est-à-dire dans tout son être, et ce, quel qu'il soit. C'est dans ces conditions que nous contribuerons à la paix, car la violence sociale, on l'a vu, est toujours semée là où il n'y a plus de respect, plus d'égalité, plus de justice, là où il y a l'exclusion, la discrimination, le mépris, les inégalités et l'individualisme. Voilà pour moi ce qu'est être responsable personnellement de la paix de notre société, chacun à notre niveau.
Nos pères écrivent encore. Nous appelons donc de nos voeux un débat préélectoral qui permette une rencontre franche et respectueuse des idées et des programmes afin d'aboutir à une décision électorale qui pourra être accueillie par tous. Chantal Bonnemère, comment pouvons-nous contribuer à un débat à la fois libre et respectueux?
Je pense que tout débat libre et respectueux suppose de s'avancer vers l'autre, d'apprendre à le connaître, en privilégiant l'écoute et le dialogue, en cherchant ensemble ce qui nous rassemble, qui nous humanise toujours plus. En bref, ce qui nous oriente vers le bien commun.
Jacques, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, moi je rejoins parfaitement Chantal. Contribuer à un débat à la fois libre et respectueux, c'est d'abord savoir écouter tout le monde, y compris ceux qui sont considérés comme les sans-voix. Savoir respecter l'autre dans son intégralité, dans son intégrité. Et voilà, je crois que quand on sait écouter, quand on sait respecter l'autre tel qu'il est, on doit contribuer à un débat à la fois libre et respectueux.
Les chrétiens savent également que la justesse éthique et la justice sociale vont de pair et qu'il n'est jamais légitime ni fécond de choisir l'une au détriment de l'autre. Alors, comment percevons-nous l'unité du bien commun à promouvoir?
Alors, Bernard Migueroux nous a envoyé un petit mot, puisqu'il ne peut pas être là, qu'on va peut-être lire avec Chantal. Il écrit « Les hommes d'aujourd'hui peuvent toucher à une perception aiguë du bien commun. Ils savent que tout se tient, c'est le fameux « tout est lié » du pape François. Ils savent aussi la fragilité de ce bien commun très menacé. On tire sur un fil de la pelote et tout se défait.
La conscience de tout cela est récente. L'unité est d'abord de créer notre terre et ce qui la compose, le vivant aussi. L'homme appartient à cette unité et en vit. L'eau, la terre, l'air, les espèces, toutes les ressources sont notre bien commun. Son pire ennemi, l'homme et sa cupidité. Mais l'homme a aussi la capacité d'en connaître la valeur, de le faire savoir et de le protéger.
Alors Bernard écrit encore, le bien commun est aussi immatériel. Tous les savoirs et ce que le génie de l'homme a produit. L'unité, c'est ce patrimoine que l'on peut protéger, partager, transmettre, faire vivre, enrichir, mais aussi défigurer et détruire. Les générations actuelles ont une grande responsabilité. Nous pouvons regarder les programmes des candidats à l'aune du bien commun. On peut prendre la bonne direction ou s'en écarter.
Le deuxième thème abordé, thème au titre, sur les 7 titres, c'est le respect inconditionnel de toute vie humaine. Nos évêques écrivent « Le premier confinement a été scandé par le souci de sauver des vies, au risque d'oublier parfois que toute personne humaine a besoin de relations d'amitié et d'affection. » Alors, comment mieux prendre en compte la dimension relationnelle et spirituelle de la vie humaine?
Alors, c'était une question qui s'adressait encore une fois à Bernard Migueroux, qui n'est pas là. Et il nous a fait part de sa réponse écrite qui est la suivante. Donc la dimension relationnelle et spirituelle de la vie humaine, cette interrogation, je l'ai ressentie, dit-il, comme une bouffée d'oxygène. La vie n'est pas que la vie biologique. Le débat électoral sur l'avortement et l'euthanasie, regardons les mots et les thèmes en face, est souvent réducteur, simplificateur et donc faussé. Il est aussi souvent influencé par des considérations bassement économiques, de rentabilité et de primat donné à l'avoir.
Pour respecter la vie, il faut la considérer dans sa plénitude, sa gratuité, son altérité. On voit alors que les dimensions rationnelles et spirituelles de la vie sont fondamentales. Pas d'humanité sans lien avec les autres. Le lien fonde une société. S'il disparaît, elle s'effondre. L'erreur
des survivalistes, c'est-à-dire de ceux qui cherchent à survivre à tout prix et de croire pouvoir se passer des autres. L'erreur des productivistes est de croire qu'il y a des êtres inutiles, superflus. La diversité, la relation et l'échange fondent une société malgré les dérives possibles, nous le savons. L'échelon politique doit chercher à favoriser ce qui relie les hommes entre eux. La créativité est à ce prix. N'oublions pas que dans le mot « religion », il y a le mot latin « religare » qui veut dire « relier ».
Le respect de toute vie trouve sa justification, car elle a sa source et son aboutissement en Dieu, mais un Dieu qui est Père. La dimension spirituelle de la vie, c'est cette prégnante de la capacité de l'homme à se dépasser, transcéder les choses, les ouvrir au sens, à la beauté, à l'aspiration d'un ailleurs, d'un au-delà.
Si je peux me permettre, Barthélémy, oui. J'aimerais rajouter un mot là sur ce thème.
Oui.
Comment mieux prendre en compte la dimension relationnelle et spirituelle de la vie humaine ? Il me semble que la réponse à cette question, dimension relationnelle et spirituelle, se trouve dans le principe chrétien que nous a enseigné Jésus, de ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Ou son côté positif est de faire aux autres ce que nous aimerions que l'on nous fasse. Il me semble que c'est un bon critère pour mieux prendre en compte à la fois cette dimension relationnelle et spirituelle de la vie humaine.
Ces deux dimensions se complètent en les nourrissant, en fait. Elles contribuent au bien, à l'équilibre et au bien-être de au bien de l'être humain. En fait, il n'est pas possible de vivre sa foi sans l'autre. La foi est interrelationnelle.
Nos pères évêques, au numéro 8e, écrivent « Sauver des vies, comme notre société en a éprouvé le réflexe à approfondir à la faveur de la crise sanitaire, c'est aussi accueillir la vie naissante avec respect et émerveillement. Comment mieux respecter, accueillir la vie naissante dans notre société ?